Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
100.9 Galade.
Et bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve donc pour la dernière émission de la saison 2022-2023 de Alors on change sur Calade, l'émission mensuelle d'Alternativa Villefranche consacrée au climat et au développement d'alternatives locales. Et nous allons parler ce soir des mesures locales prises pour le climat pour réduire nos émissions carbone.
Calade 100.9.
Et je suis ce soir en studio avec Marjorie et Nicolas. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes tous les deux membres du groupe de Villefranche-sur-Saône, de Alternativa Villefranche-sur-Saône. Et on a travaillé ensemble sur un rapport dont il va être sujet ce soir, qui a mesuré le bilan des élus sur leurs actions climat depuis le début de leur mandat. Et puis on est en distanciel avec Charles-Adrien Louis de BL Évolution. Salut Cal.
Salut.
Donc, Cal, on se connaît parce que tu es membre fondateur et co-dirigeant d'une structure d'un bureau d'études qui s'appelle BL Évolution. BL Évolution, c'est un bureau donc, qui travaille sur le développement durable, résolument tourné vers la transition écologique. Tu accompagnes beaucoup de collectivités dans le développement de leur PCAET, de leur schéma énergie, tous ces outils de planification de la transition écologique. Et on souhaitait pouvoir discuter avec toi aussi ce soir pour apporter une touche un peu plus macro et un peu plus nationale de tous ces mouvements des élus pour essayer de rejoindre les objectifs, l'objectif de l'accord de Paris et réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. On va commencer tout de suite par notre traditionnelle petite respiration par JC.
Voici notre rôle à La République en Marche. Vous donner les moyens de participer à votre échelle à la transformation du pays. Notre mouvement met tout en œuvre pour vous permettre de vous engager près de chez vous, pour vous permettre de rejoindre ces milliers de marcheurs qui agissent déjà localement.
La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas.
Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson.
Il y a une sorte de double discours entre des promesses très très fortes, des engagements très forts, notamment sur la scène internationale, mais les actes qui en sortent sont toujours largement insuffisants.
Qui ne te plaît plus.
Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre.
Eh ben non. C'est pas comme ça une démocratie. Je pense que le président a un vrai problème dans sa conception de l'exercice du pouvoir.
On n'est pas dupes. Pendant 9 mois, on a bossé, on a rencontré des experts. Donc finalement, on a servi à quoi? Juste pondre un bouquin?
Elle avait toutes les qualités.
La contestation de la légitimité de certains projets est perçue comme une menace à l'ordre public.
Mais on peut convaincre des gens qui vous écoutent. On peut chercher à convaincre des gens qui vous écoutent pas.
On monopolise l'espace de la représentation en tant qu'élu. Et on demande aux citoyens d'être un intermittent de la démocratie.
Et puis nous avons créé par la loi les conseils citoyens, ce qui permet aujourd'hui d'avoir des habitants dans les instances de démocratie participative.
Qu'est-ce qu'elle a ? Mais qu'est-ce qu'elle a donc ?
Quand on donne à 150 personnes représentatives de toute la population française les moyens de se faire une idée du problème et de proposer des solutions, ils vont plus loin que ce que tous les gouvernements font depuis 30 ans.
Petite chanson. Sans toi.
Si on ne fait pas pression sur les responsables politiques, rien ne changera.
Elle est fichue.
Et voilà, merci encore pour JC, à JC pour ce montage. Mettre la pression, participer à l'évaluation des politiques publiques, conseil citoyen, convention citoyenne, on en a eu des choses déjà. Et on a eu donc récemment cette initiative de ce projet de bilan à mi-mandat, organisé par le RAC, le Réseau Action Climat et le Pacte de la Transition. C'est donc ce rapport-là qui concourt un peu à cette mise sous pression et à cette évaluation des politiques publiques. Marjorie, c'était un des objectifs de ce rapport ?
Tout à fait. En fait, ça part du pacte de la transition qui a été proposé en 2020, au moment des élections municipales, avec ce même regroupement d'associations, pour solliciter toutes les listes candidates et leur proposer de signer un pacte qui contient 32 mesures qui permettent de respecter finalement les accords de Paris. Donc à l'époque, il y a 1000 listes qui ont signé, il y en a 300 qui ont été élues. Et donc l'idée, c'est au bout de 3 ans, donc à mi-mandat, de refaire le point déjà sur ceux qui avaient signé pour savoir où est-ce qu'ils en étaient du respect de leurs engagements, mais aussi pour ceux qui n'avaient pas signé et qui quand même sont soumis au même objectif, voir où est-ce qu'ils en étaient. Donc ce groupe s'est reformé et on s'en est emparé de cet outil national au niveau local pour aller solliciter ici, en Beaujolais, toutes les communes de l'agglomération de Villefranche, l'agglomération de Villefranche et également la communauté de communes de Belleville pour pouvoir avoir une comparaison entre deux agglos.
Et ce rapport, il traite, enfin, tant au niveau national qu'au niveau local, d'un certain nombre de secteurs pour un peu balayer un petit peu toutes les activités humaines et voir comment la réduction des émissions de gaz à effet de serre peut se faire dans chacun de ces secteurs. Ce sont quels secteurs ?
Il y a 8 grands secteurs, grosso modo, qui recouvrent les 32 mesures qui étaient évaluées dans ce rapport. 32 mesures qui étaient construites pour correspondre à la réalisation de tout ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, dont on sait par ailleurs qu'il est déjà insuffisant. En tout cas, elles sont indispensables, ces mesures. 32 mesures qui ont été regroupées en 8 grands secteurs, je les cite rapidement. Consommation responsable, qui est un grand levier à la portée des collectivités locales. Transition énergétique, dont on a beaucoup parlé récemment. Agriculture et alimentation, pour lesquelles nous avons ici de forts potentiels, finalement peu exploités. Environnement et biodiversité. Aménagement et urbanisme, mobilité, cohésion sociale et démocratie participative, qu'il ne faut pas oublier parce qu'elles sont un outil absolument indispensable pour l'adhésion des populations.
Cal, tous ces secteurs d'activité, toutes ces choses-là, ce sont des secteurs de travail aussi pour BL Évolution. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quel est le rôle de ce bureau d'études et en quoi il y a un travail avec les collectivités locales ?
Oui, très bien. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner les collectivités. Donc, on va dire qu'on se place du côté de la collectivité. Là, vous avez un rôle de contre-pouvoir citoyen. Nous, on essaye d'apporter de l'expertise aux élus et aux chargés de mission, qu'il ne faut vraiment pas oublier, dans les collectivités qui veulent mettre en œuvre ces mesures de transition écologique. Donc, notre rôle, c'est de les aider à comprendre où sont les enjeux, à voir quelles actions ils peuvent mettre en place, par quels moyens ils peuvent y arriver, et comment ils arrivent à avoir l'adhésion de la population. Et un des sujets, peut-être qu'on en reparlera après, c'est justement de réussir à faire ensemble. On parlait de cohésion sociale, mais il y a un vrai sujet sur les territoires qui est comment est-ce que citoyens, acteurs du pouvoir, entreprises, etc., font ensemble et rentrent dans la même dynamique et ne sont pas uniquement à se rejeter la faute sur c'est un tel, c'est un tel.
On en reparlera tout à l'heure parce qu'on a eu une conférence de presse qui, justement, ça a été un des sujets et voir comment on peut collaborer ou comment on peut être complémentaire sur certains rôles. Les principaux enseignements au niveau national d'abord, puis après peut-être au niveau local de ce rapport mi-mandat.
Alors, au niveau national, il y a 115, je crois, enquêtes qui ont été finalisées. Et ce qu'il en ressort, c'est que on n'est pas tout à fait dans le trend, on peut dire ça comme ça, puisque la note en gros nationale, c'est 2,6, sachant que 10, c'est le respect des accords de Paris. Alors même si on est qu'à mi-mandat, on voit quand même que la marche pour atteindre le 10 est encore importante. Et les principaux enseignements, c'est déjà la transparence qui est un peu laborieuse, c'est-à-dire que rencontrer les élus, avoir des informations des élus, c'est difficile. Beaucoup de collectivités ont fermé la porte. C'est voie nationale et ça nous est arrivé aussi au niveau local. Et en gros, on voit que la notion d'urgence, en fait, elle n'est pas là. C'est vrai que le dérèglement climatique, c'est acté. Le fait qu'il faille faire des choses, c'est acté dans toutes les collectivités. Par contre, la vitesse et l'ampleur des choses à mettre en œuvre n'est pas là aujourd'hui, quoi.
Et quel que soit le secteur ?
C'est plus ou moins vrai selon les secteurs, mais quel que soit le secteur, on est en retard.
Est-ce que c'est un constat qui peut être fait aussi au niveau plus global, au niveau des territoires que vous accompagnez à BL Évolution, Cal ?
Bien sûr, c'est un constat qui est global, qu'on accompagne ou qu'on n'accompagne pas partout. En fait, aujourd'hui, les territoires en sont à l'heure des mesures d'éteindre le robinet quand on se brosse les dents ou de trier ses déchets. On n'a pas une vision globale et systémique de ces enjeux-là. C'est pas faute d'essayer. Il y a des territoires qui sont très volontaires, très volontaristes. On pourra parler un peu de ce qui permet à des territoires de se mettre en branle. Mais en fait, aujourd'hui, les territoires ont un caillou dans la chaussure énorme. C'est qu'ils peuvent pas faire des territoires complètement ancrés dans la transition écologique si, au niveau national, on ne donne pas les bonnes orientations. Et comme aujourd'hui, on donne des orientations qui sont contradictoires et qui vont pas du tout dans le sens de la transition écologique, quelle que soit la volonté du territoire, on n'arrivera pas à être à la hauteur des enjeux aujourd'hui. Ce n'est pas dire qu'il faut baisser les bras, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le chemin n'est pas facilité. Donc, on peut mettre en place des mesures qui permettront de s'orienter, mais il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, en France, il existe un territoire qui soit compatible avec les accords de Paris.
Et du coup, ici, on a un petit peu discuté avec les élus locaux des secteurs sur lesquels il y avait eu des améliorations et d'autres où c'était calme plat. Sur le territoire du Beaujolais, quelles sont les principales activités qui sont réductrices des émissions de gaz à effet de serre ? Dans quel secteur ? Qui réduisent des émissions, enfin des activités qui permettent la réduction. Quelles sont les nouvelles activités qui ont permis justement de réduire des émissions de gaz à effet de serre ?
Alors, ce qui est le plus travaillé, on va dire, aujourd'hui dans le Beaujolais, c'est la transition énergétique. Et ça a été fortement boosté finalement par la situation géopolitique européenne qui fait que le prix de l'énergie est augmenté. Et bien du coup, là, on a touché au porte-monnaie et il y a eu beaucoup d'actions menées pour isoler, pour réduire cette consommation-là, avec, heureusement, qui est bon pour la planète, pour effet rebond, de réduire aussi l'émission des gaz à effet de serre. Donc là, c'est vraiment un levier qui a été plus travaillé.
Il y a un exemple, tu penses à une collectivité qui aurait fait...
Par exemple, je pense à Salles-Arbussona, où ils ont rénové leur école. En fait, ils ont été accompagnés par la Halte 69, qui est l'organisme qui a été choisi par l'agglo pour accompagner les communes. Et ça leur a permis... Donc ils ont changé leur chaudière, ils ont rénové, ils ont isolé, etc. Et ils ont quand même baissé de 65% leur consommation d'énergie et de 93% leur émission de gaz à effet de serre. Ils sont passés au pelé. Et alors que Salles est dans une zone classée et c'est un bâtiment classé, ils ont quand même réussi à faire ça. Donc comme quoi, c'est possible. Après, quand on discute avec eux, ils ont dit qu'ils se retrouvaient un peu seuls pour mener le projet. Et en fait, ils l'ont fait par eux-mêmes, sans beaucoup d'accompagnement derrière.
Et c'est un des points que tu as relevé, Cal, sur le travail systémique, qui est, enfin, en tout cas, l'environnement systémique qui n'est pas là. Enfin, toutes les mesures. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi ici, en Beaujolais, où on est encore sur des actions très limitées en termes d'impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais pas sur une approche systémique comme elle peut exister, par exemple, à Belleville, Nicolas ?
Oui, effectivement, on a évalué deux agglos ou communautés de communes, qui sont des entités à peu près équivalentes. Il y a une énorme différence entre les deux au niveau local. Donc on a évalué la CCSV, communauté de communes Saône
Beaujolais.
Autour de Belleville, qui a vraiment enclenché depuis plusieurs mandats déjà une réflexion, et on en voit le résultat aujourd'hui, puisqu'ils ont clairement une longueur d'avance. Ils sont engagés territoire et énergie positive. Ils ont mis en place des structures de production d'énergie, choses qui n'ont pas du tout lieu ici au niveau de la communauté d'agglomération de Villefranche. Et c'est vrai qu'au niveau de Villefranche, on a remarqué ça, par exemple, au niveau de la mobilité, où l'agglo est effectivement mobilisé, notamment autour d'un schéma directeur cyclable, d'un plan vélo. Mais ça a tendance à rester un petit peu au niveau anecdotique, parce que ce n'est pas relié à d'autres mesures. Effectivement, on va chercher à favoriser un petit peu le vélo, mais en parallèle, il n'y a aucune réflexion sur la place de la voiture dans la ville. Et c'est vraiment quelque chose qui est notable dans l'ensemble des mesures. Aucune mesure n'est pensée pour être relié avec une autre. C'est vraiment l'aspect global et l'aspect systémique qui manque dans la réflexion actuelle, malgré la bonne volonté présentée par les élus.
Et c'était un exercice dont tu as parlé, enfin c'est une situation, un constat dans lequel tu as parlé, Cal, où effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces communautés de communes ou ces agglos ou ces métros. Alors on a vu dans le rapport national qu'il y avait une certaine différence entre la taille, enfin la taille de la collectivité impactait un petit peu la vitesse de la transition écologique. Qu'est-ce qui est pour ces communautés de communes ou ces agglos qui sont, j'allais dire, dans la catégorie moyenne? Moyenne ville ou moyenne population, qu'est-ce qui est possible? Quels sont les leviers qu'on peut activer, qu'ils peuvent activer pour passer un peu plus à l'échelle et avoir une vision un peu plus systémique, Cal?
Ouais, juste je voulais mettre un bémol là-dessus parce que bon, j'imagine que dans le rapport, les métropoles et les grandes collectivités ont l'air d'agir plus vite.
S'en sortent mieux, voilà.
De s'engager dans la transition. C'est vrai au niveau de leur territoire, c'est vrai au niveau local. C'est pas forcément vrai si on prend en compte les émissions indirectes importées, etc. Les personnes vivant en agglomération ayant plus tendance à avoir recours, par exemple, à l'avion, à avoir un certain nombre de choses qui font que, en termes de gaz à effet de serre, c'est un peu discutable de dire qui est responsable de quoi. Tout comme pour l'agriculture, bah, l'agriculture forcément on la trouve dans les territoires plus ruraux. Les consommateurs ils sont partout, donc les deux sont forcément liés. Donc on peut pas forcément dire que, enfin de mon point de vue, hein, que les métropoles agissent plus rapidement que les communautés de communes. Simplement, elles ont des leviers d'action plus évidents à mettre en place, et des capacités à changer et souvent des moyens financiers qui leur permettent d'envisager des changements structurels un peu plus importants. Après je voulais rebondir sur l'histoire des changements. Enfin, dans chaque commune, chaque collectivité, on peut trouver des personnes, et c'est très bien, qui rénovent les bâtiments publics. C'est une bonne chose, c'est indispensable. Souvent, c'est pas du tout à la hauteur des enjeux, dans le sens où ça représente rien comme émission sur le territoire. Mmh. Parfois, ce sont des équipements qui sont quand même conséquents, notamment les piscines intercommunales peuvent avoir des très très grosses consommations d'énergie. Et donc se posent des questions. Est-ce qu'il faut rénover? Est-ce qu'il faut arrêter de chauffer l'eau de la piscine? C'est là où on voit qu'il y a un enjeu de cohésion sociale aussi. Il y a des territoires qui réfléchissent à ça. Il y en a qui ont arrêté leur piscine pendant l'hiver, là, essentiellement pour le prix de l'énergie. Par contre, j'ai pas entendu de territoire qui s'est dit que le vrai problème systémique, c'est l'utilisation de l'eau, et c'est pas la piscine intercommunale, ce sont les piscines privées des particuliers qui fleurissent dans tous les sens et qu'on continue de pousser, de vendre et parfois même de chauffer. Mmh. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est plus compatible avec les questions de changement climatique
et de justice sociale.
Sera plus compatible avec les questions d'eau et qui a pas d'intérêt social. Contrairement à une piscine municipale où on peut se dire il y a un intérêt pour l'apprentissage de la natation pour les plus jeunes, pour la remise en activité, etc. Il y a un lien social. La piscine privée, c'est plus discutable. C'est plus un confort individuel qu'un enjeu social sur un territoire.
Clairement. Marjorie, tu voulais réagir?
Oui, déjà sur le premier point, effectivement, moi je voulais compléter, c'est que les métros, elles ont plus de moyens, etc. On voit dans le rapport national que c'est les villes moyennes qui sont les plus mal placées. Et nous, on a vu au niveau local, en fait, que ce n'est pas forcément les villes moyennes qui sont sur notre territoire qui font le plus. Et que, à contrario, les communes rurales, même souvent petites, qui ont très peu de moyens, finalement, font alors ce qu'elles peuvent avec leurs moyens, mais ont des dynamiques plus importantes que les villes moyennes. Et c'est vraiment flagrant. Alors, c'est varié. Mais c'est vrai que c'est pas les... Sur notre territoire, c'est pas ceux qui ont le plus de moyens qui en font le plus, clairement. Et par rapport à ce que tu disais sur les piscines, c'est vrai, c'est un bon exemple. Quand on a rencontré les élus, beaucoup ont compris, ont envie. Et ils nous disent, bah oui, mais en fait... Je fais ce que je peux. Donc, on s'est attaqué à la rénovation des bâtiments publics parce qu'ils nous appartiennent. Et par contre, aujourd'hui, ils nous disent ben, on ne va pas plus loin parce que finalement, on n'a pas l'adhésion de la population pour aller plus loin. Et on a un mandat de la population. Et donc, on ne peut pas typiquement arrêter les voitures, éteindre l'éclairage nocturne, etc. Certaines communes y vont quand même, disent ben non, nous, c'est notre rôle. On a le courage finalement d'aller au bout et de le faire, même si la population n'est pas forcément d'accord. Et il y a d'autres communes où on dit, ben, en fait, non, si je fais ça, ça râle, donc je ne le fais pas.
On a tenu une conférence de presse jeudi dernier, Alternativa sur le Beaujolais, pour présenter ce rapport. Et on en a fait un petit micro-trottoir qu'on vous présente ce soir.
Alternativa, c'est un thermomètre dans son domaine. Alors c'est un thermomètre qui n'est pas parfait, mais c'est un thermomètre qui nous permet au moins d'avoir des éléments de mesure qui vont permettre de faire avancer les choses.
Il y aura un gros travail d'enquête qui a été fait sur des bases plutôt objectives, en voulant valoriser ce qui a été fait, même si peu a été fait.
C'était intéressant et enrichissant d'avoir ce retour, cette vision en fait de notre territoire à travers un prisme assez particulier, purement environnementaliste pour le coup, avec beaucoup de données. Mais en tout cas, c'était un moment d'échange également très intéressant.
Ça a le mérite de combler l'autosatisfaction qu'on peut avoir dans certaines collectivités sur l'action qui est menée et montrer tout le chemin qu'il y a à faire.
Ce que je découvre ce soir, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir, une vraie volonté de faire bouger les choses, de faire bouger les élus dans une action positive. On n'est pas dans la critique totale qu'on pourrait constater par ailleurs. C'est qu'il y a une vraie volonté d'agir ensemble pour aboutir à des projets communs construits avec les citoyens. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous, élus d'opposition, c'est la participation citoyenne.
Tous les citoyens ne sont pas forcément partants pour toutes les mesures qu'il faudrait prendre. Et donc, il faut qu'on leur explique, qu'on leur apprenne, qu'ils comprennent et qu'ils soient amenés à aussi devenir moteurs dans cette démarche-là.
Le manque de participation des élus, ça m'a quand même choquée, que pas plus de personnes soient là.
Il y en avait peu. Il y avait un maire, plusieurs adjoints. Donc, le verre vide, c'est de voir qu'il y en avait peu. Le verre plein, c'est de voir leur investissement et leur envie de faire. J'espère qu'ils seront des porte-parole pour leurs collègues élus sur l'agglomération.
Il y a une prise de conscience politique qui est enclenchée, mais qu'entre la prise de conscience politique et les actions concrètes, il y a encore une marge très importante. Et ça nous montre aussi que malheureusement, il y a sur notre territoire des blocages importants sur certains points.
On se trouve devant un État qui est totalement schizophrène, avec des injonctions contradictoires. Créez de l'emploi sur votre territoire pour éviter les mouvements pendulaires, mais surtout, n'utilisez aucun foncier économique. Donc là, il faudra qu'on m'aide à résoudre la quadrature du cercle. C'est tout simplement impossible. Donc voilà à quoi les élus locaux sont confrontés.
Pour l'instant, il n'y a pas de réelles actions concrètes, même si ils ont énoncé quelques actions. Voilà, l'impact de ces actions seront vraiment peu d'impact sur le réchauffement climatique, enfin en général.
On fait ce qu'on peut, quoi, avec les contraintes qu'on a. Et ce serait bien que les contraintes des élus soient prises en compte un peu plus. Ce qui me dérange et m'ennuie énormément, c'est dans l'action d'Alternativa ou d'autres structures, des structures militantes, le manque de prise en compte des contraintes des élus. Ça m'a permis en tout cas de voir que, effectivement, certes, le territoire auquel j'appartiens est peut-être un peu en retard, mais il y a quand même des choses qui se font, particulièrement en milieu rural, où ce n'est pas forcément le milieu dans lequel il est le plus facile d'agir, parce qu'on manque de moyens, on manque d'ingénierie. On n'en a pas forcément les compétences, d'ailleurs, des compétences qui appartiennent soit à l'agglomération, soit à d'autres structures plus élevées.
Il y a sur notre territoire des blocages importants sur certains points. J'ai évoqué en particulier l'agriculture biologique, qui est vraiment un impensé au niveau des politiques de notre collectivité, de la CAVBS. Et là, il faut absolument qu'on progresse. Il faut qu'on fasse sauter des verrous internes, qui sont ceux de certains élus, qui clairement freinent des cas de fer sur cette question-là.
On a tout intérêt, élus, associations militantes comme Alternativa, simples citoyens, autres associations, à le plus possible travailler ensemble pour faire avancer l'ensemble de ces projets et l'ensemble de la cause.
C'était vraiment bien.
C'est qu'un début.
Eh ben, une très bonne découverte.
On lâche rien.
Ensemble, on est une force immense.
Les bonnes intentions, c'est bien. Les réalisations plus ou moins ponctuelles, c'est bien. Mais comme vous l'avez très bien montré, il faut du systémique et il faut passer à la vitesse supérieure.
Calade 100.9.
Et on vient d'entendre donc un montage de toutes les personnes qui étaient là, élues de la majorité, de l'opposition, des communes, de l'agglomération. On vient d'entendre pas mal de choses dont on a déjà un petit peu discuté tout à l'heure, ces histoires d'injonctions contradictoires données par l'État, se faire ensemble. Charles-Adrien, je voulais te faire réagir à ce que dit l'une des personnes interviewées. Il me semble que c'est le maire de Salles, une petite commune d'un peu plus de 750 habitants, qui mentionne les difficultés administratives administratives parmi lesquelles, enfin, auxquelles il doit faire face et qui ralentissent la transition. Et quand il a mentionné ça, j'ai pensé à une donnée qui était dans le rapport national qui dit que près de 60% des communes évaluées ne respectent pas la loi sur la proportion des produits de qualité dans la restauration collective. C'était un exemple parmi d'autres pour montrer qu'en fait, les collectivités ont déjà du mal à suivre pour l'implémentation des réglementations déjà existantes et donc se placent à un niveau illégal, hors la loi. Comment il parle beaucoup de difficultés administratives. Il a pris plusieurs fois la parole, ce maire, pour nous expliquer ça et parler de ce millefeuille administratif et le fait qu'ils doivent répondre à la fois à des demandes de développement économique, mais qu'il ne peut pas installer une ZAC ou une zone d'activité artisanale sur son territoire. Tout ça, c'est la réalité des communes sur le terrain.
Oui, j'ai tendance à dire que face à un problème, il y a ceux qui cherchent des excuses et ceux qui cherchent des solutions. Et là, la personne, en l'occurrence, a l'air plus d'être dans le fait de chercher des excuses. Mais ceci dit, elle soulève des problèmes qui sont relativement réels. Mais bon, que je minimiserai un petit peu quand même. En fait, on a tendance à repousser le problème à plus loin, et quand on arrive au moment où ça devient illégal, se dire « Ah mais oui, mais on n'a pas pu mettre en place tout ce qu'il fallait. » La part de restauration locale et bio dans les cantines, ils ne l'ont pas découvert cette année. Ça fait des années que c'est en place, et ça fait des années que des mesures peuvent exister, mais que les élus n'osent pas prendre pour arriver à ça. Aujourd'hui, il existe des territoires qui acquièrent des terrains et qui mettent dessus des maraîchers, des agriculteurs, donc qui ont une production locale. C'est un agent municipal qui fait la production des aliments qu'ils vont distribuer. C'est des choses qui sont faisables. C'est des choses qu'on rencontre très rarement parce que les collectivités vont dire c'est pas notre rôle, on est en train de se rendre en concurrence avec un secteur économique, etc. etc. Donc, on peut faire si on le souhaite. Il y a un truc qui m'a interpellé, donc si j'ai bien compris, c'est lui qui le disait, sur l'injonction contradictoire entre réduire l'artificialisation et réindustrialiser la France.
Tout à fait.
Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. En fait, on a eu un tissu industriel, donc on a ce qu'on appelle des friches industrielles et on a tout un tas d'endroits qui aujourd'hui sont à l'abandon et sur lesquels on peut recréer des structures et recréer de l'emploi.
Donc ça ne va pas en contradiction avec la zéro artificialisation qu'on vise non plus alors ?
Non, ça ne va pas du tout en contradiction. J'ai un exemple dans une communauté de communes pas un peu au nord de chez vous, la communauté de communes du Clunisois. Eux, ils ont un ancien sanatorium de 300 places qui est en friche depuis une trentaine d'années. Ils se sont dit maintenant, tous les nouveaux projets, on va les mettre là-dedans, on va réhabiliter ce bâtiment. Donc, zéro artificialisation et ils vont développer le nombre de logements. Ils vont développer des activités économiques. Alors, effectivement, ce sera plus des activités économiques artisanales. Ce ne sera pas une grosse industrie qui va s'implanter là. Mais après, on peut se demander, est-ce que c'est à cet endroit qu'il est nécessaire d'installer une grosse industrie ? Je ne suis pas sûr. On a tout un tas de territoires qui sont en déplétion en termes de population. Ces territoires étaient, par le passé, des territoires avec un riche tissu industriel. C'est sur ces territoires qu'il faut redévelopper les grandes usines industrielles que l'on souhaite développer. Parce qu'il y a ce qu'il faut en termes de logements disponibles, il y a ce qu'il faut en termes de terrain pour créer ces industries, etc. Donc il y a une faisabilité. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elle est très très mal accompagnée par l'État et qu'on laisse les élus face devant ça avec des injonctions où on leur dit ça va se passer comme ça, débrouillez-vous. En ce moment, on a un autre sujet un peu comme ça, c'est la loi d'accélération des énergies renouvelables, où on est en train de dire aux communes, vous avez 6 mois pour dire à quel endroit il faudra mettre des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, alors que ça fait des années qu'on est en train d'essayer de structurer une cohérence au niveau régional et au niveau des intercommunalités. Et 6 mois, en fait, c'est trop court, beaucoup trop court pour une vie démocratique, en fait.
Et en fait, on a l'impression du coup qu'il y a vraiment une case qui manque d'être cochée, c'est celle de l'aménagement du territoire au niveau national avec une stratégie et une vision claire à la fois de réindustrialisation, de placement, j'allais dire, d'existence des populations et que finalement, le fait de couper le territoire en plein de petites entités ne permet pas finalement aux élus de pouvoir se poser la question de quel développement développement sur ma parcelle, finalement.
Oui, en fait, il faut être clair avec les territoires de ce qu'ils peuvent faire, ce qui est attendu d'eux. Je prends un autre exemple, c'est la rénovation énergétique. C'est un sujet qui est très important, la rénovation énergétique chez les particuliers, hein, pour les bâtiments. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend des communautés de communes? C'est qu'elles diffusent l'information, qu'elles soient le relais, qu'elles mettent en place des opérations qui permettent aux acteurs locaux, aux citoyens locaux de se saisir de ce qui existe. Mais on ne demande pas aux communes, aux communautés de communes, aux communes de financer ça, c'est pas possible. Donc ça, ce sont des fonds qui viennent de l'État, c'est ma prime rénov', c'est tous ces trucs-là. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cohérence. Tous les ans, ça change. Tous les ans, le parcours administratif est différent, etc. Ça devient un casse-tête insupportable pour les personnes qui doivent mettre ça en œuvre sur les territoires. Et du coup, ça aide pas le citoyen à avoir la bonne décision. Donc, chacun son rôle. L'État doit structurer un truc cohérent et avec une vision claire. Il faut qu'on sache en tant que citoyen, dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, ça va se passer comme ça. Les territoires, il faut qu'ils se fassent relais de la diffusion de l'information. Il faut qu'ils soient relais de la diffusion auprès des habitants, mais aussi auprès des artisans. Et ensuite, la décision, c'est aux habitants de la prendre en compte. Le deuxième sujet sur la rénovation, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'artisans et on n'a pas assez d'artisans formés aux techniques de rénovation qui sont les plus vertueuses. Ça, c'est pareil. Une collectivité, il faut qu'elle fasse en sorte de pouvoir attirer ses artisans, mais il faut qu'ils soient formés. Et donc, qui c'est qui a vraiment le pouvoir de faire une communication massive pour former 500 000 artisans dans les 5 prochaines années? Ça, c'est plutôt au niveau national. Éventuellement, au niveau régional, on peut imaginer ça. On ne va pas demander à chaque commune de créer un petit poste de formation de 3 artisans dans sa commune.
Et on a vu sur le logement et sur les rénovations ici, il y a eu quelques questions du pacte qui concernait ce secteur-là. Marjorie, je pense à une mesure que la commune de Blacé a pris pour les logements vacants. Et il me semble que c'était les logements de résidence secondaire.
Non, là, c'était tous les logements vacants. Donc, typiquement, par rapport à ça, il y a des élus sur le territoire qui essaient d'accompagner justement ce que tu dis, Cal, sur tout ce qui est rénovation. Typiquement, alors, soit il y a Blacé qui, effectivement, met depuis à partir de 2023 une taxe sur les logements vacants pour essayer de faire tourner finalement le parc immobilier. Ou il y a la commune d'Arnas qui baisse la taxe foncière pour les particuliers qui font des travaux de rénovation énergétique. Donc il y a effectivement des accompagnements qui sont faits là-dessus. On voit effectivement au niveau de l'agglo aussi beaucoup de communication qui est faite là-dessus. Mais après, ça pourrait aller plus loin, même si ce n'est pas de leur responsabilité et que c'est au niveau de l'État de porter ça. Il y a des communes qui accompagnent et qui, du coup, incitent la population à changer et d'autres où il ne se passe rien. Donc on voit qu'il y a quand même un rôle d'accompagnement possible au niveau local pour favoriser ça.
Et sur cet accompagnement, on a aussi noté, nous, et j'imagine que c'est des choses que tu vois dans d'autres collectivités, mais Marjorie, peux-tu nous expliquer sur le changement justement qui peut exister structurel ou systémique du côté de Belleville, sur la communauté de Beaujolais-Saône, ou Saône-Beaujolais, je mélange à chaque fois, mais donc sur cette agglo-là où depuis plusieurs années, il y a déjà des chargés de mission, où il y a déjà des systèmes d'appui de la Comcom aux communes, chose qui n'existe pas ici en agglo.
Oui, effectivement, la Comcom de Belleville a fait le choix de porter finalement l'ingénierie pour les communes, d'aller chercher les subventions, de construire les dossiers, d'avoir les bons acteurs, parce que pour un maire, surtout d'une petite commune, c'est compliqué, il n'a pas les forces humaines ni les forces, ni les compétences finalement. Et puis c'est un peu, effectivement, le ressenti souvent, c'est le millefeuille administratif, on ne sait pas à quelle porte aller frapper. Et donc du coup, il paye l'ingénierie pour les communes, ce qui fait que les communes sont accompagnées. Alors que si on va sur l'agglo, en fait, typiquement, l'agglo a engagé un ingénieur de flux pour accompagner les communes, sauf que quand les communes font appel à cet ingénieur de flux, ils doivent le payer. Donc on voit deux manières différentes d'accompagner ces communes dans des agglos. Et de fait, il y a beaucoup plus de projets qui sortent au niveau de la communauté de Belleville parce qu'en fait, les financements, ils sont entre guillemets acquis d'avance que sur l'agglo.
Cal, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques dont tu pourrais nous partager là et qui peuvent être inspirantes?
Ah,
sur ce truc-là de justement d'accompagnement. Nous, on voit vraiment que c'est quelque chose ici sur l'agglo où les élus reconnaissent qu'il y a eu du retard qui a été pris sur les mandats précédents et que du coup, on est vraiment dans un petit bonheur la chance pour les communes, ce que tu disais tout à l'heure. Et du coup, est-ce qu'il y a comment les agglos peuvent essayer de se mettre à disposition de leurs entités au plus près du local, au plus près de l'habitant?
Ouais, tout ça c'est la question de l'animation. La problématique qu'on peut rencontrer encore, c'est que pendant très longtemps, les élus ont été ce qu'on appelle des maires bâtisseurs, c'est-à-dire qu'ils savaient porter un projet d'investissement, sortir un bâtiment de terre, etc. Ils n'ont pas encore cette culture de la collectivité peut aussi être dans l'accompagnement, faire de l'animation sur le territoire, etc. Certains le font. Les prérequis, c'est il faut des moyens humains dans la collectivité. Si vous n'avez pas un chargé de mission sur les sujets climat, vous n'aurez pas des actions ambitieuses sur le climat. Si vous n'avez pas un chargé de mission sur mobilité, vous n'aurez pas un développement des mobilités, etc., etc. Ensuite, il existe tout un tas de territoires qui mettent en place des lieux dédiés à l'animation, à la sensibilisation. Donc, on peut avoir des maisons de l'habitat, par exemple, dédiées à la rénovation énergétique. On peut avoir tout un tas de conseils qui sont dedans, des maisons de la mobilité, des maisons de l'environnement, des maisons plus globales de la transition écologique. Ils sont en fait des lieux, parfois c'est des lieux partagés avec des citoyens, donc qui peuvent ressembler à des tiers-lieux. Parfois, c'est un ancien bâtiment, justement, de la commune, qui est utilisé pour ça, mais dans lequel tout le monde sait que si on a une question, si on a une interrogation sur un sujet, on peut venir ici. Et c'est là aussi où on va connaître le panel d'offres diversifié par le territoire. Si on parle de la mobilité, par exemple, c'est là où on va voir peut-être des assos qui vont, en tout cas du lien vers, il existe des assos qui vous aident à réparer votre vélo sur le territoire. Vous pouvez passer votre permis de vélo en allant, en utilisant tel dispositif. La communauté de communes met en place des aides pour que vous puissiez acquérir un vélo ou un vélo à assistance électrique. Vous pouvez passer par des structures de covoiturage qui existent, etc. etc.
C'est là qu'on retrouve ce faire ensemble dans ce genre de lieu. Ce faire ensemble dont on parlait tout à l'heure. Vas-y.
Ouais, excuse-moi, le faire ensemble, il est sur le fait que la communauté commune ou d'agglo, etc., n'est pas obligée de faire toute seule. Elle peut faire avec des structures sur le territoire. Et il y a parfois des territoires où le tissu associatif est très riche, s'empare de cette question, mais a besoin de relais, a besoin d'être mis en visibilité, a besoin que les citoyens les connaissent, a besoin parfois de subventions pour acquérir un peu de matériel, de mise à disposition de locaux. Et ça, c'est des choses qui sont possibles, faisables, pas trop coûteuses pour une collectivité et qui n'a pas besoin du coup de se saisir complètement de cette question. Elle va la déléguer d'une certaine manière, mais c'est un peu comme le débat que vous aviez tout à l'heure sur l'aide au conseil pour les communes. C'est que si la collectivité décide de ne pas faire mais de déléguer, il faut qu'elle abonde un petit peu financièrement ou par des moyens qui permettent aux assos d'avoir leur plein potentiel et pas de faire des choses de briques et de broc avec leurs petits moyens bénévoles.
Et du coup, on voit qu'il y a ces besoins de développer, de trouver un peu cette articulation entre les différents acteurs de la transition écologique. C'est un peu ce qui manque un peu ici. On n'a pas justement cette articulation entre les différents acteurs et on est très à la fois très sectoriel et à la fois très acteur par acteur. Marjorie, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'un groupe de citoyens comme nous à Alternativa sur ce rapport qu'on a donc réalisé sur les trois derniers mois? Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant?
Alors nous, on va continuer à mettre la pression, même si des fois, donc certains élus trouvent qu'on est trop dur, on va dire. Mais il faut arriver absolument à développer le faire ensemble, parce que les élus, aussi engagés, motivés soient-ils, ils n'y arriveront pas tout seuls non plus. Donc nous, on va être là encore auprès d'eux pour apporter notre expertise citoyenne, certes, mais qui vaut quelque chose. Et du coup, on va continuer à porter cette parole-là. On va essayer de former aussi les élus en leur proposant, par exemple, de participer à des fresques climat, des fresques alimentation, etc. Parce que typiquement, il y a un sujet où on n'a pas
on
du tout...
On n'en a pas eu le temps. Ouais.
Non, on n'en a pas eu le temps, mais parce qu'en fait, il est à peu près au niveau zéro quand on voit le rapport. C'est l'alimentation et l'agriculture. Il y a des gros blocages, il y a des gros freins. Et ça, c'est vraiment un sujet... Alors que c'est un levier et un potentiel très important chez nous. Après, on est en zone viticole, ceci explique cela. Mais typiquement, là-dessus, on peut continuer à accompagner et on va essayer de porter ce rapport auprès de tous les élus qui n'ont pas daigné nous recevoir, qui ne nous ont pas écoutés, et le faire savoir au grand public aussi, pour que finalement, ce soit aussi les citoyens qui s'en emparent et qui mettent la pression sur leur municipalité.
Merci beaucoup. Merci à vous tous pour ces interventions. Et on poursuit maintenant avec une pause musicale.
C'est quoi ça?
Debout là-dedans, bordel! Allez, debout là-dedans!
C'est quoi ce bordel?
Allez, debout! Debout là-dedans! Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer! Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers! Qu'on veut pas de militaires, que des militants! Allez, debout! Debout là-dedans! Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer! Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers! Qu'on veut pas de militaires, que des militants!
Les plus sceptiques, maraboutelés, les plus réfractaires, contaminés.
Fais le forcing, sors la tiraille, sort les munitions,
l'artillerie, braquer les camps sur des positions. Bouge-les comme un LK, bouge les défenses, réveille-les comme Zizou, réveille le stade de France. Ce soir, on vous met, ce soir, on vous met la fière. Ce soir, on vous met dans la tête une idée révolutionnaire. Mission Haïti à coup de ghetto blaster. Message de paix de Buenos Aires à Ramallah, tous solidaires. De Dakar à Jakarta, faire péter les watts comme un acte humanitaire. Pour nos voisins, nos cousins, nos petits frères. Pour les nôtres, pour nos quartiers populaires. Réveille-les et dis-leur c'est salutaire.
Debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Et debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants.
Issu d'un peuple qui a beaucoup dormi. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus dormir. Issu d'un peuple qui a beaucoup dormi. Nous sommes issus d'un peuple.
Tout le monde debout.
Prends ce nouveau son comme une invitation à la révolution. Comme dirait tonton, ils nous prennent pour des cons. Ils nous endorment, nous embrigadent, nous prennent pour leur pantin. Ah c'est bon, assez soupé de leur baratin. Leur guerre de civilisation, leur fagnon, leur salade. Et choisis ton camp camarade, Washington ou Islamabad. Ça me rend malade et on peut pas y échapper.
Partout,
à la radio, dans les journaux, à la télé.
Mais c'est quoi ce monde bordel?
En tout cas je suis pas de la partie. Trop jeune pour mourir, trop vieux pour ces conneries. Tous ces politicards, ces soldats, ces jobards. S'ils viennent nous chercher, on saura les recevoir.
Allez, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Allez, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants.
Y'a urgence. On se rassemble, qu'on se mobilise, qu'on s'organise, réalise, qu'il serait temps qu'on dramatise. En bas de chez Watt, y'en a qui crèvent la dalle. Ça se part en live, et les chances sont inégales. Y'a plus de repères, les minots sont du père. Le climat est tendu, on se croirait en état de guerre. Le message, c'est pour toi, toi, toi. Motive ta clique, ton clan, ta familia. Fais trembler les murs, vibrer les persiennes. Ça brams, faya, de Lille à Marseille. Monte la sauce, les passeux, faut que tu les traumatises. Balance, fais péter leurs oreilles, tu les brutalises. Comme des sales gosses, comme des sales gamins. Réveille-les, réveille tes voisins. Dis-leur c'est le mar, dis-leur que ça tape. Dis-leur à ta façon, voilà c'est de la patate.
Hey, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Hey, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Hey, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Hey, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers.
Et c'était donc le ministère des Affaires Populaires avec leur titre « Debout là-dedans ». Merci beaucoup à nos invités, à Marjorie, à Nicolas d'Alternativa Villefranche-Beaujolais qui était avec nous en studio.
Merci.
Merci à Charles Adrien qui était de BL Évolution. BL Évolution, c'est un bureau d'études qui accompagne les collectivités territoriales dans leur transition écologique. Cal, tu en es le fondateur et un co-gérant. Merci à toi d'avoir pris ce temps avec nous ce soir.
Merci.
Si vous souhaitez approfondir tout ça, vous pouvez aller faire un tour d'ailleurs sur le site de BL Évolution où il y a de nombreuses publications qui sont faites et qui des infographies très pédagogiques pour bien sûr comprendre comment on peut participer et un peu quels sont les enjeux qu'on a en face de nous. Nous, on se retrouve bientôt sur le terrain. On en parlera tout à l'heure dans notre petite rubrique d'action pour le futur. Et en attendant, on va passer à Leslie et Daniel. Leslie et Daniel, ce sont deux de nos alternativiens, alternatibiennes caladoises, partis au Guatemala et qui nous adressent leur chronique à deux voix, la chronique Co-inspiration, qui vient nous donner un regard d'ailleurs sur la participation citoyenne et sur la transition. Et ce soir, c'est à eux, ils nous balayent la situation dans plusieurs pays d'Amérique du Sud.
Co-inspiration. Mexique. Le zapatisme est un mouvement social mexicain qui voit le jour en 1994 dans l'état du Chiapas pour défendre l'autonomie des peuples indigènes. Son nom renvoie à la lutte d'Emiliano Zapata dans les années 1910. Le mouvement se bat pour l'autonomie des populations indigènes en mettant en avant l'esprit communautaire, la gestion collective, les revendications des identités, la défense de la nature, la libération des femmes et la solidarité internationale. Fin 1994, il instaure des communes autonomes, autogérées, dans le but de rendre leur fierté au peuple indigène.
Adelante, zapatistas. La planète est notre mère et la lutte de nos parents, la nôtre. Retrouvez votre foi et vos racines. Prenez la machette et la paix. Reprenons tous ensemble ce qui à tous nous appartient, la vie. Emiliano Zapata et Pancho Villa veillent sur nous quand nous veillerons sur nos descendants. Nous sommes indigènes et métis. Nous sommes Chiapas et le Mexique. Nous sommes la justice face à l'injustice.
Guatemala. Ce pays compte 60% de population indigène, descendant directe des Mayas. Au fil des années, de grandes industries multinationales se sont appropriées leur sol, leur imposant un modèle agricole réduisant leur identité de peuple autochtone. En réponse à cela, des autorités indigènes ont rédigé une proposition de loi nommée 6086, loi de la biodiversité et des savoirs ancestraux. La proposition de loi cherche à, je cite, « défendre la biodiversité et les savoirs ancestraux des modèles extracteurs qui volent et appauvrissent les sols des entreprises et politiques corrompues. »
Nous venons d'une graine native, avec plus de mémoire que n'importe quelle technologie. Nous sommes enterrés, inactifs, endormis sous le sol, mais nous sommes là. Et aujourd'hui, nos graines sont remuées, retardées, rendues à leurs sœurs et leurs frères. Mésoamérica résiste.
Nicaragua est le 20e siècle, énième histoire d'une collision entre impérialisme et socialisme. À partir de 1937, quatre décennies de dictature tenues par les États-Unis priveront les citoyens et citoyennes d'une coexistence avec ces merveilles naturelles. En 1979, la révolution sandiniste remplace le modèle capitaliste par un modèle marxiste. Le territoire à ce point est déjà très déforesté. Aujourd'hui, le dictateur est pseudo-socialiste. Il s'appelle Daniel Ortega et compte 26 ans au pouvoir. Une propagande d'autrefois qui donne espoir aux paysans et paysannes dans un système agro-industriel qui a éloigné l'être humain de la terre.
La coopération, c'est notre philosophie, plus concrète que leur idéologie. Bienvenidos a Nicaragua. Laissez-vous orienter par le boulanger ou l'étudiant, l'ancienne et les champs, le ciel et les vents. Ensemble, nous nous protégeons d'un système établi sur la mensonge, boulimique des pouvoirs, qui transforme couloirs biologiques en palmes et trottoirs. La guerre terminera quand la dernière plante coupée repoussera.
Costa Rica. Le Costa Rica, soit pour sa densité de population réduite, soit pour sa stabilité politique, soit pour sa vision futuriste par rapport à l'évolution socio-économique mondiale, a développé une conscience écologique profondément différente de celle de ses voisins, faisant de l'écotourisme une de ses premières sources d'emploi. Les 25% du pays sont des parcs nationaux, permettant à sa faune et à sa flore d'avoir une existence paisible sans l'intervention de l'espèce humaine. Le pays abrite 5% de la biodiversité mondiale.
Pour la vida, les colibris à reculons, les quetzals filants, les perroquets qui s'envolent sans amour, les tapirs, ces grands jardiniers. Pour la vida, les dangers de la beauté, serpents, crocos, scorpions, araignées, une vie sauvage demande attention et pensée sage. Les Caraïbes et l'océan,
baleines, requins et dauphins. Grand poisson mange petit poisson. Une logique qui fonctionne si autour il n'y a pas de poison. Les paradis nous habitons. Et ces anges et ces nuages toujours nous protégeront. Toujours nous protégeront.
Et c'était un beau panel de coopération et de participation citoyenne en Amérique du Sud. Nos prochains rendez-vous, ils seront en septembre. On se retrouve alors pour une nouvelle émission radio, pour une nouvelle diffusion de films et de documentaires chaque mois aux 400 coups, pour de nouvelles actions de terrain pour faire vivre notamment les résultats de ce rapport. Restez attentifs à nos actualités cet été par le biais de nos réseaux sociaux. Vous verrez, on ne reste pas inactifs alors que les épisodes climatiques extrêmes vont certainement être le lot, malheureusement, des semaines estivales à venir. Merci à toute l'équipe radio de Alternativa pour cette fantastique année d'émission. Merci à Alice et à Pierre qui étaient ce soir à la technique. Merci à JC pour la pertinence et la qualité des montages sonores. Merci à Leslie et à Daniel de l'autre côté de l'océan pour la chronique co-inspiration. Et merci à Radio Calade pour ce partenariat fécond. Vous pouvez réécouter et podcaster toutes nos émissions depuis la page de l'émission sur le site de Calade. Et à très bientôt.
Alors on chante. Qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse tout faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
100.9 Calade.